avant de laisser la parole à Philippe, je vous lis le texte qui servira de base à sa prédication. Donc Job, le livre de Job, chapitre 19, versets 1 à 12. Job prit la parole et dit « Jusqu'à quand affligerez-vous mon âme et m'écraserez-vous de vos discours ? Voilà 10 fois que vous m'outragez. N'avez-vous pas honte de m'étourdir ainsi ? Si réellement j'ai péché, seul j'en suis responsable. Pensez-vous me traiter avec hauteur ? Pensez-vous démontrer que je suis coupable ? Sachez alors que c'est Dieu qui me poursuit et qui m'enveloppe de son filet. Voici, je crie à la violence et nul ne répond. J'implore justice et point de justice. Il m'a fermé toute issue et je ne puis passer. Il a répandu des ténèbres sur mes sentiers. Il m'a dépouillé de ma gloire. Il a enlevé la couronne de ma tête. Il m'a brisé de toutes parts et je m'en vais. Il a arraché mon espérance comme un arbre. Il s'est enflammé de colère contre moi. Il m'a traité comme l'un de ses ennemis. Ses troupes se sont de concert mises en marche. Elles se sont frayées leur chemin jusqu'à moi. Elles se sont campées autour de ma tente.
Bonjour, bonjour. C'est vrai, c'est une joie pour moi d'être ici avec vous. Et aussi, je ne me sens pas comme un invité, mais comme à la maison. Et aussi, je remercie Dieu pour l'œuvre que tu es en train de faire ici, parmi vous, et surtout dans vos cœurs. Merci, Toby, pour la lecture. Vous avez compris que le thème de mon message est « Seul n'est jamais abandonné ». Je voudrais partager avec vous ce que Job a ressenti, la solitude dans la souffrance. Vous savez, ici, dans ce monde où la population déborde, il y a pourtant un grand problème. C'est quoi? C'est la solitude. Qu'est-ce que la solitude? La solitude, pour moi, c'est un sentiment d'isolement. Même quand on est au milieu de la foule, on peut être entouré, mais se sentir seul. On se sent mal aimé, on se sent rejeté, comme il n'y avait plus rien à vivre. La solitude attaque l'intérieur. La solitude brise l'espoir. Et aussi, la solitude construit un mur invisible autour de nous. Vous savez, Job, c'est un homme qui a souffert beaucoup. Mais pourtant, il est décrit comme quelqu'un de parfait, quelqu'un de droit, quelqu'un qui craint Dieu. Mais un jour, tout s'écoule. Il perd tous ses biens en un jour. Il perd tous ses enfants en un jour. Il perd le soutien de sa femme. Il perd même sa santé, une maladie grave. Et aussi, il perd la compassion de ses amis. Mais malgré tout cela, il ne perd pas sa foi en Dieu. Job sait souffrir. Pouvons voir dans ça. Donc, quand on lit dans Job 7, verset 16, « Je le méprise, je ne vivrai pas toujours, laisse-moi, car ma vie n'est qu'un souffle. » Ensuite, Job 10, verset 20, « Mes jours ne sont-ils pas en petit nombre, qu'il me laisse, qu'il se retire de moi et que je respire un peu. » Donc, Job connaît la solitude dans la souffrance. La souffrance nous mêle souvent à la solitude, n'est-ce pas? Quand on souffre, on perd parfois notre perspective. Les petites choses deviennent énormes. Les grandes choses deviennent sans importance. On se centre sur soi-même. On commence à douter, on s'inquiète, on a peur. Et parfois, on devient comme Job. On dit, Seigneur, laisse-moi juste respirer un peu. Mais voici une vérité importante. Après avoir tout perdu, Job, dans le premier chapitre, verset 21, il dit, que le nom de l'Éternel soit béni. Vous savez, Satan pensait que Job allait dire que le nom de l'Éternel soit maudit. Mais Satan s'est trompé. Cela montre encore une chose simple. Satan ne connaît pas l'avenir comme Dieu. Ici, dans ce chapitre 19, nous pouvons voir, nous pouvons même découvrir l'encouragement dont nous avons besoin lorsque nous nous sentons seuls. Il faut lire aussi le chapitre 18. Nous sommes en train de voir le chapitre 19. Dans le chapitre 18, son ami Bildad, il est en train de tenir des paroles blessantes envers Job. Vous savez, normalement, les amis sont là pour consoler, pour encourager. Mais dans le cas de Job, ce n'était pas le cas. Au lieu d'être porteur de charge, ses amis sont devenus des commentateurs de douleur. Donc, son ami Bildad, il a présenté quatre images terrifiantes concernant la terreur de la mort. Job, dans le chapitre 19, il entend de répondre. Il répond comment? Il répond en décrivant cette image. Nous allons découvrir cette image ensemble. Cette image, ce chapitre 19, pour moi, c'est un chapitre très intéressant, rempli de scènes, rempli des images vivantes par lesquelles Job est en train de passer. Avant cela, dans le chapitre 3, Job maudit le jour de sa naissance. Il se demande pourquoi. Pourquoi? C'est vrai. Supposons que Dieu avait dit à Job les raisons derrière ses problèmes. Est-ce que cela aurait résolu ses problèmes? Pas forcément. Après tout, le peuple de Dieu vit par ses promesses, non pas par les explications. Maintenant, nous allons voir ensemble ce chapitre 19 et surtout les sept images. Donc, pour moi, la première image. Donc, vous avez ici la première image, verset 6. Un animal dans un filet. Sachez alors que c'est Dieu qui me poursuit, qui m'enveloppe dans son filet. Donc, Job se voit comme un animal pris dans un filet. Impossible de bouger pour lui. Même pas pour dire au secours. Ce deuxième message, deuxième image, surtout, au verset 7, un criminel au tribunal. Voici, je crie à la violence et nul ne répond. J'implore justice et point de justice. C'est vrai. Il se voit comme un criminel. Il crie, il entend de dire, ce n'est pas juste. Mais personne ne répond. Il a la même impression que le juge semble être en pause déjeuner. Au verset 8, un passager devant un barrage routier. Il m'a fermé de toute issue. Je ne puis passer. Il a répondu, des ténèbres sur mes sentiers. Job se sent bloqué. Il n'allait même pas ni avancer, ni à droite, ni à gauche, ni en avant, ni en arrière. Je pense que même le GPS aurait abandonné. Au verset 9, un roi détrôné. Il m'a dépouillé de ma gloire. Il a enlevé la couronne de ma tête. Vous savez, Job était respecté. Maintenant, il est brisé. Avant, il était sur le trône. Maintenant, il est sur la cendre. Changement de siège radical. Au verset 10. C'est un bâtiment démoli. Il m'a brisé de toutes parts et je m'en vais. Job se sent comme un bâtiment en ruine. Tout s'écoule. Même l'impression que le mur dise, on ne tient plus. Ensuite, notre sixième image au verset 10. Un arbre déraciné. Il a arraché mon espoir comme un arbre. Bien sûr, Job, il était un bel arbre, solide et fruité, c'est-à-dire qu'il a donné beaucoup de fruits. Il y avait la famille, les amis, ses voisins, tout le monde en profitait, ces fruits-là. Maintenant, il est déraciné. Notre septième et dernière image, versets 11 et 12. Il était comme un ennemi attaqué par Dieu. Il s'est enflammé de colère contre moi et ses troupes se sont mises en marche contre moi. Job, il avait l'impression que Dieu lui-même est contre lui, comme une armée qui entoure la tente. C'était une ambiance très stressante, même pour dormir. Voilà les images de Job. Mais au milieu de tout cela, une chose reste vraie. Job souffre, mais Job n'est pas abandonné. Chers amis, Job montre une vérité profonde. On peut se sentir seul, on peut se sentir bloqué, perdu, brisé, sans être abandonné par Dieu. Job avait l'impression d'être enfermé dans un filet, bloqué sur tous les chemins, attaqué de toutes parts. Pourtant, au milieu du cœur de sa douleur, Dieu était là encore. Il était encore là, invisible, mais présent, silencieux, mais fidèle. N'est-ce pas parfois notre expérience aussi? Nous aimons Dieu. Nous croyons en ses promesses, mais nous vivons encore dans ce monde vraiment marqué par la souffrance, marqué par la solitude, marqué par les larmes, marqué par l'injustice. C'est là que nous devons faire le lien avec cette vérité glorieuse. C'est quoi ça? Nous appartenons à un autre royaume. Nous avons chanté tout à l'heure. Nous aurons la joie de vivre avec lui pour toujours au ciel. Nous sommes des hommes et des femmes du royaume de Dieu. Nous sommes déjà des citoyens des cieux, mais nous n'habitons pas encore au bon endroit, c'est tout. Mais on appartient au royaume. On vit encore en territoire étranger. Nous sommes en transit. Bientôt, nous allons déménager. Ça y est, quand je dis ça, j'ai l'impression qu'il y en a certains qui transpirent déjà. C'est vrai, car la Bible dit, nous entendons, nous attendons une cité céleste. Ça veut dire que Dieu est l'architecte. Dieu est là, le constructeur. En attendant cette cité céleste. Nous sommes ici, sur cette terre. Il y aura toujours, comme Job, des jours de questions, des jours de solitude, des jours de silence. Oui, pour les enfants de Dieu, la souffrance est temporaire. Mais le royaume, c'est quelque chose de permanent. Le royaume est éternel. Nous allons voir maintenant le résultat de cette souffrance de Job. Nous lisons cela dans, à partir de versets 13 à 21. Job explique que la douleur ne vient pas du corps, il vient de la maison, les relations et le cœur. Au verset 13, nous lisons que « Il a éloigné de moi mes frères et mes amis se sont détournés de moi. Je suis abandonné de mes proches. Oublié de mes intimes. Je suis étranger pour mes serviteurs. J'appelle, mon serviteur ne répond pas. Pourtant, normalement, quand le patron appelle, quelqu'un répond. Mais ici, le silence total. On dirait que Job a été mis en mode avion. Au verset 17, nous voyons ici, mon humeur est à charge à ma femme et ma plainte au fils de mes entrailles. Ici, il parle de sa famille proche. Même à la maison, je ne trouve plus de réconfort. Ensuite, au verset 18, je suis méprisé même par des enfants. Si je me lève, je reçois leur insulte. Normalement, un enfant voit une personne souffrante. Les enfants montrent de la compassion. Mais ici, Job, il devient les cibles des moqueries. Il devient la cible des moqueries. Ensuite, au verset 19, ce que j'avais pour confident, mon honoraire, ce que j'aimais se sont tournés contre moi. Vous savez, la douleur est encore plus forte quand elle vient de ceux qu'on aime. À la fin, au verset 21, il dit, ayez pitié de moi, ou mes amis, car la main de Dieu m'a frappé. Vous savez, c'est le cri d'un homme brisé. C'est le cri de la solitude. Autrefois, Job était grand, respecté, et il était riche, il était influent. Maintenant, aujourd'hui, il est oublié, il a été rejeté, laissé de côté. Comme quoi, la vie peut passer du trône au trottoir sans prévenir. Un jour, VIP, lendemain, désolé, on ne vous reconnaît pas. C'est ça. Un peu comme si un footballeur ballon d'or se retrouvait remplaçant. C'est vrai, hier, peut-être le trône royal. Et aujourd'hui, c'est un banc public et surtout encore sans coussin. Vous savez, la souffrance de Job n'est pas seulement physique. Il entend de dire que c'est pas seulement mon corps qui souffre, mais moi aussi, il avait un cœur blessé. Il existe des douleurs que aucun médicament ne calme, la souffrance morale, la souffrance intérieure, le rejet, la solitude, le cœur brisé, un cœur cassé. Peut faire aussi mal qu'un os cassé, parfois même plus longtemps. Donc ici, Job nous parle de la solitude dans la souffrance. Job regarde la douleur avec ses yeux humains. Il voit le rejet, il voit la solitude, il voit tout ça avec ses yeux humains. Mais Dieu veut lui montrer qu'il existe une réalité plus grande que ce que ses yeux peuvent voir. Vous savez, nous sommes conditionnés par nos cinq sens et par notre petit cerveau. Il nous dit que nous n'utilisons que 10% de notre cerveau. Parfois, on se dit heureusement, parce qu'avec le dégât qu'on fait avec 10%, qu'est-ce que serait avec 100%? Vous savez, nous sommes conditionnés par les informations que nous recevons à travers nos cinq sens. Mais pourquoi Dieu nous a-t-il créés? Dieu veut nous faire comprendre une chose essentielle. Nous ne vivons pas seulement dans la chair, mais dans une atmosphère spirituelle. Le problème, c'est que nous avons parfois, c'est que nous avons une foi très terre à terre. Nos prières ressemblent à une liste de courses spirituelles. Seigneur, bénis-moi. Bénis ma famille. Donne-moi à manger. Aide le banquier à dire oui pour mon prêt. Envoie une augmentation et si possible une nouvelle voiture. Amen. Vous savez, Dieu nous aime. Il s'occupe aussi de nos besoins matériels. Mais il a aussi tellement plus en réserve pour nous. Mais masser par la foi, ce n'est pas faire semblant que tout va bien. Non. Mais ce n'est pas nier la réalité. Mais c'est refuser que la réalité est le dernier mot. C'est ça. Marcher par la foi, c'est apprendre à agir et apprendre à regarder la vie autrement. Ça veut dire quoi? Apprendre à regarder non seulement depuis la terre, mais depuis le ciel. C'est lever les yeux plus haut que les murs, plus haut que les problèmes, plus haut que le chiffre sur le compte bancaire. C'est exactement le combat que vit Job. Marcher par la foi, ce n'est pas nier la souffrance, mais c'est croire que la souffrance n'a pas le dernier mot. C'est ça qui est beaucoup plus compliqué pour nous. Maintenant, nous allons voir le remède pour cette souffrance. C'est vrai, il y a un remède pour la souffrance de Job. Quand nous souffrons, quand nous nous sentons seuls ou oubliés, abandonnés, quelle est la solution? La réponse se trouve dans ce chapitre 19, versets 25 et 26. Je vais lire ce verset. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Donc, la réponse, c'est quoi? Je sais que mon Rédempteur est vivant. C'est ça la réponse pour nous? Donc la réponse de Dieu, Job, ce n'est pas une méthode. Quand on passe par le moment difficile, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de chercher plusieurs méthodes. Mais ici pour Job, c'est quoi? C'est pas une méthode, mais c'est une personne, Jésus-Christ. Vous savez, Job avait peu de lumière, mais il avait une grande foi. Job ne connaissait pas Jésus comme nous aujourd'hui. Il n'avait ni Nouveau Testament, ni prédication YouTube, ni podcast chrétien, ni application Bible sur téléphone. Mais pourtant, il déclare avec assurance, mon Rédempteur est vivant. Autrement dit, je souffre, mon Rédempteur, mais mon Rédempteur vit. Je pleure, mais mon Rédempteur vit. Je ne comprends rien, mais mon Rédempteur vit. Tout s'écoule. Mais mon Rédempteur reste debout. Vous savez, quelle foi, si Job croyait autant avec si peu d'informations, combien plus devons-nous croire aujourd'hui? Il n'a pas dit seulement ça, il a dit que je verrai Dieu, c'est une espérance vivante. Il parle ici de la résurrection, il attendait le jour où la souffrance finirait et où la gloire commencerait. C'est vrai. Encore cette vérité nous révèle, nos amis peuvent nous abandonner. Les familles ne peuvent nous négliger. Et aussi les gens peuvent nous oublier. Mais Jésus ne nous oublie jamais. Maintenant, nous allons voir la différence que Jésus fait dans la souffrance. Nous allons reprendre cette image. Maintenant, nous allons voir ce que Jésus peut changer. Comment il peut changer cette image qui représente les souffrances de Job. C'est la première image. Un animal dans un filet. Nous lisons dans Jean 8, verset 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. C'est qui? C'est Christ nous rend libre. Et Paul, quand il était en prison, il disait quoi? J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Son corps était enfermé, mais son âme était remplie de joie. La deuxième image, Job se sentit comme un criminel, seul devant un tribunal. Dans Romains 8, 38, nous lisons que qui les condamnera? Christ est mort bien plus qu'il est ressuscité. Il intercède pour nous. Christ nous représente. Quand Satan accuse, Jésus plaide notre cause. Entre l'accusateur et l'avocat, on sait qui gagne. Notre troisième image. Job se sentit bloqué. Il était comme devant un barrage routier. Dans Psaume 37, 23, nous lisons que l'Éternel a fermé les pas de l'homme. C'est vrai? Christ nous guide. Il est notre bon berger. Parfois, nous voulons courir, mais Dieu dit, assis-toi un peu. Nous appelons cela un retard. Mais Dieu, il appelle cela un repos. Quatrième image. Job se sentit comme un roi détrôné. Dans Romains 5, 17, nous lisons que nous régnerons dans la vie par Jésus-Christ. Oui, chers amis, le croyant peut tomber, mais il n'a pas perdu sa couronne céleste. Cinquième image. Job se sentit comme un bâtiment détruit. Dans 2 Corinthiens 4, verset 16, nous lisons que si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Oui, c'est vrai, le corps fatigue, mais le cœur peut pleurer. Quand ici tout craque, là en haut, tout est solide. Pourquoi? Parce que nous sommes construits éternellement en Christ. Notre sixième image, Job se sentit comme un arbre déraciné. Nous lisons dans 1 Pierre 1, 3, nous avons une espérance vivante. Oui, si le vent souffle fort, même l'arbre enraciné tient debout. Nous sommes enracinés en Christ. Notre septième et dernière image. Job se sentit attaqué par Dieu. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Romains 5, 10. Nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. La guerre est finie. La paix a été signée à la croix. Donc voilà le grand remède de Job. Nous allons voir ici juste un résumé de tout cela. Ne vous inquiétez pas, j'ai préparé quelques photocopies de résumé de ce message. Si vous êtes intéressé, voilà, je serai heureux de vous les partager. Mais voilà le grand remède de Job. Il ne s'est pas appuyé sur ses sentiments, mais sur une vérité. Il n'a pas dit « Je sens que tout ira bien ». Il a dit « Je sais que mon Rédempteur est vivant ». Ça, c'est une leçon pour nous, pour aujourd'hui. Ne pas vivre selon nos sentiments, chers amis. Nos sentiments changent vite. Un jour, on se sent fort. Un jour, on se sent vide. Un jour, on chante. Un jour, on pleure. Un jour, on dit « Alléluia, gloire à Dieu ». Un jour, on dit « Aïe, aïe, aïe ». Et si nous vivons selon nos émotions, nous tomberons vite. Mais si nous marchons selon la parole de Dieu, nous resterons debout. La foi dit, Dieu est là, même si je ne le sens pas. Dieu agit, même si je ne le vois pas. Dieu contrôle, même si je ne comprends pas. Vous savez, la Bible dit, le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence des incrédules. Ce matin, chers amis, peut-être vous pensez connaître Dieu uniquement par votre intelligence. Permettez-moi de vous dire que vous êtes encore bien loin de le connaître. Et je suis toujours impressionné par le dialogue dans la Bible, par le décalage qu'il y a souvent dans ces dialogues. Vous connaissez le dialogue entre Jésus et Nicodème. Parfois, ça me fait penser à Tintin, peut-être vous connaissez, au capitaine Haddock et au professeur Tournesol. Vous savez, dans Tintin, il y a souvent des scènes où le capitaine Haddock s'emporte et le professeur Tournesol, il dit quoi? À cause de sa surdité, il comprend tout autre chose. Je vais vous donner un exemple. Haddock dit 1 000 milliards de tondeuses à gazon de Tournesol. Vous allez finir par faire exploser la baraque avec votre expérience. Le Tournesol répond. Vous dites une salade? Oui, je veux bien, avec de l'huile d'olive. Ils ont dans la même pièce, mais pas sur la même longueur d'onde. Même dialogue, mais deux mondes différents. Ce dialogue, nous le vivons très souvent, nous aussi. Regardez ici, Nicodème dans Jean 3, versets 3 et 4. Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Et là, quand les femmes entendent ça, elles crient surtout pas. Vous voyez le décalage? Je parle par l'esprit. Jésus, il parle par l'esprit. Mais Nicodème analyse avec son intelligence. C'est quoi marcher par la foi? Vous savez, toujours il y a un décalage entre Dieu et nous. Pourquoi? Parce qu'on doit marcher par la foi. C'est quoi marcher par la foi? Marcher par la foi, c'est juste faire confiance en Dieu. C'est quoi marcher par l'esprit? C'est obéir à Dieu. Vous savez, foi sans esprit devient théorique. L'esprit sans foi devient émotionnel. Donc la Bible unit toujours les deux ensemble. Son besoin de foi et l'esprit. Réfléchir par l'esprit, c'est penser avec la perspective de Dieu. Ici, Jésus parle par l'esprit. Nicodème analyse avec son intelligence. Vous savez, beaucoup de fois, ce décalage se trouve toujours dans notre compréhension de la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens n'entrent pas dans les promesses que Dieu a faites. Pourquoi? Parce que ce n'est pas parce que Dieu ne voulait pas les accomplir, mais parce que eux, ils n'ont pas saisi tout cela par la foi. Nous essayons d'entrer par nous-mêmes, nous essayons d'entrer par notre propre force. Vous savez, ici, Nicodème écoute avec la chair, mais Job, il écoute avec un cœur connecté à Dieu. Donc, chers amis, peut-être derrière un sourire se cache parfois une bataille. Peut-être derrière un ça va. Peut-être il y a un cœur épuisé. Mais peut-être aujourd'hui, tu te sens seul. Seul dans ta maison. Peut-être seul dans ton combat, dans ta douleur. Mais une chose, tu peux être sûr que tu n'es pas seul. Mais tu n'es jamais était abandonné par Dieu. Jésus est vivant, il prie pour toi, il marche avec toi, il transforme les combats, il garde le contrôle, il prépare la gloire à venir. Nous lisons dans Romains 8, verset 18. J'estime que la souffrance du temps présent ne saurait être comparée à la gloire à venir, que sera révélée pour nous. Aujourd'hui, les larmes, demain, c'est la gloire. Comme Job, peut-être, c'est sûr, Dieu, il va nous donner la force pour qu'on puisse relever. Relever les yeux au-dessus des cendres. Relever des yeux au-dessus, pas seulement les cendres, et aussi des larmes, au-dessus des questions sans réponse, et ose dire, avec une voix tremblante, je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Nous allons juste prier. Nous allons courber la tête et fermer les yeux. Avant de chanter un chant, entre tes mains, j'abandonne. Nous allons passer un temps dans la prière. Nous pouvons rester quelques instants dans le silence. Si Dieu a touché ton cœur à travers ta parole. Peut-être aujourd'hui, ton cœur crie en silence. Peut-être tu ne comprends même pas ton combat. Tu souris dehors, mais peut-être dedans, tu pleures. Ce matin, tu peux ouvrir ton cœur et prier à Dieu. Tu peux dire à Dieu, « Me voici, je suis devant toi. Tu connais ma fatigue. Tu connais ma douleur, tu connais ma situation. Juste, tu peux dire que je sais que mon Rédempteur est vivant et j'ai besoin de toi. Prions. Oui, Seigneur, tu vois chaque cœur brisé. Tu connais les âmes cachées. Tu connais le combat silencieux. Nous te demandons de fortifier les faibles. Nous te demandons de relever ceux qui sont tombés. Nous te demandons aussi de consoler ceux qui pleurent. De remplir chaque cœur de ta paix. Parce que ta parole nous rappelle, nous avons un Sauveur vivant. Je sais que mon Rédempteur vit. Et même quand je passe par la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi. Nous te faisons confiance. Aujourd'hui, c'est le combat. Demain, c'est la gloire. Au nom de Jésus. Amen.
Merci Philippe pour ton message si riche et si parlant. Je vous invite maintenant, comme nous avons l'habitude, de terminer ce temps par cette prière que Jésus lui-même nous a apprise avant le dernier chant de bénédiction. Nous pouvons dire avec confiance, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Donc, le dernier chant, nous connaissons par cœur, donc nous vous invitons à nous mettre en cercle et à chanter.
Que la grâce